Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 25. Comme toujours, je suis avec
Mister Onetni.
Et nous allons commencer cette semaine, comme toujours, par le numéro de la semaine.
Et avant que tu commences, je tiens à te dire qu'à chaque fois que j'entends cette musique d'intro, je pense à toi qui arrive sur un cheval avec une petite guitare électrique.
Ah, on n'est pas loin. C'est presque ça. C'est juste que c'est pas un cheval, c'est un poney. Mais...
Oui, voilà. C'est un poney, effectivement.
La confusion est facile à faire, donc je te l'accorde. Donc, Benny, c'est à toi de commencer le numéro de la semaine.
Eh bien, donc, numéro 25, donc très simple, cette semaine. Captain America 25, donc la mort, enfin, la fausse mort de Steve Rogers, mais dont on a beaucoup parlé à l'époque et qui a fait grand bruit dans l'univers des comics, à tel point qu'on en a même parlé dans les journaux télévisés américains, quand même, comme à l'époque où Superman était mort. Et donc voilà, un épisode de Brubaker qui est l'un des plus réussis. À mon avis, en fait, la période la meilleure de Brubaker, d'ailleurs, c'est celle qui commence au début du volume 5 et qui s'achève avec le Captain America 25, quasiment.
Bah oui, c'était ce qui mettait un petit peu un terme à Civil War.
Ouais.
Et puis après, ouais, la série Captain America traînait un petit peu en longueur.
Il y a eu quand même quelques bons épisodes au début avec Bucky en remplaçant, et puis... Puis je sais pas, ça s'est essoufflé.
Longueur, quoi. Bah, peut-être que c'est nous qui attendons autre chose et que les histoires sont très bien, hein, je sais pas. Je suis pas certain, mais bon.
Bon, enfin voilà, quoi, un épisode sympathique.
Ouais, et qui a fait date quand même, hein, puisque énormément vendu. De mon côté, j'ai choisi aussi un épisode qui s'est énormément vendu. Alors les numéros 25 marquants, il y en a plein. J'ai choisi le X-Men numéro 25, X-Men des années 90. Hein.
Ah oui, d'accord, de l'époque Scott Lobdell, alors peut-être.
Voilà, exactement. Ça date, en fait, il n'était pas de Scott Lobdell, celui-ci. Il date d'octobre 93.
C'était Nicieza.
Voilà, c'était Nicieza au scénario, Andy Kubert au dessin.
C'était le mariage?
Non.
Non, pas du tout.
C'était la quatrième partie de Fatal Attractions.
Ah
le
oui.
Le crossover de 93 des mutants, en fait. Et dans cet épisode, on avait un gros conflit entre Magneto et ses acolytes et les X-Men. Et on se retrouve avec un Wolverine qui se fait éjecter tout l'adamantium du corps par Magneto.
Ah, c'est dans celui-là, je pensais que c'était dans Wolverine.
C'était dans celui-ci.
D'accord.
Et dans le Wolverine 75 qui suit, ce sont les conséquences de ça.
D'accord.
Et donc, ça va faire qu'on se rend compte que Wolverine avait des griffes en os, avant d'avoir les griffes en adamantium, alors qu'il pensait à l'époque que ces griffes avaient été implantées par le projet Weapon X. Ça va aussi nous montrer que son pouvoir de mutant réel est l'auto-guérison, pouvoir qui est décuplé du fait qu'il n'a plus l'adamantium.
Donc il y a un os, quoi. Il y a un os, voilà. Quelque part.
Ouh là là, dis donc, ça commence sur les chapeaux de roue, hein, dis-moi. Tu t'auto-applaudis, c'est magnifique.
Voilà, maintenant je m'auto-applaudirai.
Et à la fin de l'épisode... On a aussi Xavier qui fait un... Comment dire ça en français? Qui efface toute la mémoire de Magneto, en fait. Le
pouvoir, la fâche de cerveau, tout simplement.
Voilà, oui, voilà, chercher. J'avais le mot anglais, mais j'avais pas le mot français.
A brainwashing?
A mind wipe, en fait.
Ouais, bon, ça va. Hein. Brainwashing, je trouve ça très bien aussi.
Donc,
ça
non seulement...
Le fâche de cerveau, donc c'est très bien.
Non seulement Xavier avait dépassé les limites qu'il se fixait d'habitude, mais en plus... Ça va donner quelque chose qui aura des conséquences assez énormes des années plus tard avec Onslaught.
Ah oui, aussi.
Entre
oui.
Autres. Voilà, Joseph. Joseph aussi, ouais. Enfin, cet épisode a fait date, hein, quand même. Il y a beaucoup de choses qui reviennent à ce moment-là, même si finalement, on s'en rend pas forcément compte au premier abord.
Ouais. Et il y avait les alcooliques aussi.
Oui, les alcooliques. Qui n'étaient pas anonymes, hein, puisque on connaissait leur nom, hein, Fabian Cortez, entre autres. Et même Colossus à l'époque.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, pour le numéro de la semaine, et donc on va continuer avec les news.
News Marvel, en février, on aura le droit à un premier numéro de Doctor Strange From the Marvel Vault.
Ouais. Et au fait... Ouais, j'ai vu passer l'info, effectivement.
Voilà, ce sera Roger Stern et Neil Vox au scénario. Et au fait, From the Marvel Vault, ce sera pas forcément des histoires sur le Doctor Strange. Le concept est assez intéressant, en fait, ce sera des histoires un petit peu comme... ce sera la périodicité d'un What If, donc c'est... C'est irrégulier, quoi. Mais le principe de cette série, c'est de ressortir des histoires qui sont restées dans les cartons, en fait, de Marvel. Donc, Roger Stern, par exemple...
Voire même qui n'ont jamais été finies. Hein,
qui n'ont jamais... Voilà, aussi, par exemple. Et Roger Stern donc avait eu cette idée pour Doctor Strange au début des années 90 et il ne l'a jamais mis sur papier, enfin finalement elle n'a jamais été publiée, et donc là elle va sortir dans ce numéro, qui est le premier numéro de From the Marvel Vault en fait.
C'est franchement une super bonne idée ça.
Oui, moi je trouve ça très très bon. Donc peut-être qu'un jour on aura des histoires de Spider-Man se situant à l'époque du mariage qu'on n'a pas eu à l'époque, que je sais pas, quelqu'un comme David Michelinie avait imaginé, etc. quoi.
On va pouvoir avoir enfin, je sais pas tous les projets qui ont été abandonnés et dont on n'a jamais entendu parler, mais à mon avis, on va avoir des trucs assez énormes. Je pense qu'ils choisiront quand même pour commencer les plus grosses têtes d'affiche.
Ah, puis ce qui est très bon, c'est qu'on pourrait avoir des auteurs comme J.M. DeMatteis, Marv Wolfman, enfin des gens comme ça qui peut-être pourraient revenir sur certains personnages, écrire des histoires qu'ils n'ont pas fait à l'époque dans les années 70, 80, etc. quoi. Donc c'est quand même vachement bon.
Ah mais c'est pas du nouveau matériel, hein, c'est que de l'ancien matériel normalement.
Oui, mais c'est du matériel ou inachevé comme tu disais ou non publié finalement.
Par contre. Là où il y a un petit souci, je pense, c'est de nous... Alors, à moins que Doctor Strange redevienne sorcier suprême, c'est qu'il lance cette collection avec Doctor Strange à l'époque où il était encore sorcier suprême. Et du coup, je pense que les fans vont encore plus avoir envie de revoir Doctor Strange en sorcier suprême, puisqu'on est d'accord, Brodeur-Vaudou, ça marche pas.
Non, ça marche pas. Et de toute façon, je pense qu'il y aura un relaunch et un retour en force de Doctor Strange, peut-être dans quelques mois, certainement.
Peut-être est-ce une pseudo-annonce de Marvel en faisant ça. Je sais pas.
Ouais. Eh bien, c'est tout pour Marvel. Cette semaine, il n'y a pas grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose de transcendant. Chez DC, il se passe plus de choses. Il y a quelques mois, alors je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Rich Johnson, notre grand ami américain, en fait, avait publié quelques images d'un certain Drew Johnson qui avait dessiné du Wonder Woman. Et en fait, c'était des planches issues d'un projet écrit par Michael Jelenic sur Wonder Woman. Michael Jelenic qui s'est chargé notamment du film d'animation Wonder Woman. Mm-hmm. Et en fait, ces planches étaient restées aux oubliettes, justement. Ça ressemble un petit peu à ce que je viens de dire sur Marvel.
From the vault.
Et voilà. Et ben justement, ils vont les ressortir de leur cave, puisque en fait, les planches de Drew Johnson sur le scénario de Michael Jelenic vont être intégrés au run de J. Michael Straczynski en tant que flashback. Donc, pour gonfler un petit peu les épisodes de Straczynski qui pourraient avoir du retard et aussi de Don Kramer qui pourrait avoir du retard dans ses dessins, eh bien, on va nous mettre des flashbacks de Wonder Woman par Michael Jelenic et Drew Johnson.
Bah, on voit déjà que Kramer avait du retard puisque sur les derniers épisodes, il était assisté. Ce qui n'était pas le cas dans les tout premiers.
Espérons qu'il ne soit pas cramé à force d'avoir du retard.
On attend les applaudissements maintenant.
Voilà. Et on passe à une autre news quand même.
Vite, ouais. Très oublié.
Petite news, Legion Academy, on en parlait il y a quelques semaines. Au final, ce sera un arc qui commence dans Adventure Comics 523. Donc c'est bien sûr Paul Levitz qui s'y colle. Ce n'est pas une nouvelle série, c'est un arc en quatre parties.
D'accord.
Qui commence, je crois, en février, si je ne me trompe pas. Enfin, au 523. Quoi.
Bah, c'est le 520 qui sort, là, donc ça va être ça.
Ouais. Phil Jimenez sera au dessin.
As-tu été voté, d'ailleurs, pour la Légion ?
Oui, j'ai été voté. J'ai voté, je crois, pour Brainiac.
Eh bien, moi, je ne sais même plus pour qui j'ai voté, d'ailleurs. Tiens. Je crois que j'ai voté pour Cosmic Boy.
Ah oui, d'accord. Bah, il y a de fortes chances que ce soit le grand méchant là, comment il s'appelle,
Earthman.
Oui, parce que ils l'ont mis vraiment sur la fiche promotionnelle en avant. Donc inconsciemment, je pense que ça incite quand même pas mal à voter pour lui. Et puis ce qui fait marrer les gens, c'est que ce soit un méchant qui soit à la tête de cette nouvelle mouture. Donc
bon. Ouais, bah, je regardais un petit peu ce que les gens disaient sur le net aussi, et beaucoup de gens ont apparemment eu envie de voter pour Earthman. Alors l'ont-il fait, ça on ne sait pas. Parce que ce qui est très bien fait, c'est que DC ne montre pas les résultats tout de suite. Avec des pourcentages, comme on a de temps en temps dans les sondages, on peut voir tout de suite le résultat. Là, c'est pas le cas, c'est gardé secret jusqu'au bout, donc on verra bien. Mais il y a des chances que, effectivement, Earthman se retrouve en tant que chef de la Légion.
Ouais, propulsé en tant que chef. Et sinon, on termine sur la grosse news. Enfin, la grosse news.
Alors, Nous avons décidé de pas en parler en review. C'est, enfin, vous pouvez avoir cette info un peu partout sur le net. Si vous n'avez pas lu Batman et Robin numéro 16, je vous conseille, grâce au minutage, d'avancer directement à la double review parce que là, on va spoiler la fin.
Ouais.
Ça fait partie de ces grosses news. Donc voilà, vous êtes prévenus. Si vous voulez pas savoir ce qui se passe à la fin de Batman et Robin 16, zappez à la double review. Attention, on passe au spoiler.
Voilà, on passe au spoil. À la fin de Batman et Robin 16, que se passe-t-il, Steve? Que se passe-t-il, Steve? Voilà, j'arrête de le dire.
Bruce Wayne révèle au monde entier qu'il décide de financer Batman
dans
sa lutte contre le crime. Voilà.
Oui.
En lisant les interviews un petit peu qu'on trouve un peu partout sur le net, Bob Arras ajoute même quelques précisions. En fait, il le finance même. Enfin, ça va être révélé comme ça. C'est pas révélé, hein, je crois, dans les pages.
Non, c'est pas révélé. C'est vraiment balancé comme ça à la fin de l'épisode. Assez. Ça sort comme d'un chapeau, quoi. Ça n'a pas vraiment pas de lien avec ce qu'on voit dans le reste de l'épisode en plus. Donc.
En fait, ce qu'il va révéler, c'est qu'il va révéler qu'il finançait aussi Batman en secret depuis des années.
D'accord. Ce qui est logique. Donc c'est le fameux titre Batman Incorporated.
Voilà, ce qui met en place la nouvelle série de Grant Morrison, Batman E&C.
Oui.
Où en fait Bruce Wayne
là, ça prend tout son sens.
Voilà, va aller chercher des remplaçants, enfin pas des remplaçants, mais en tout cas des gens pour aller dans une espèce de franchise Batman à travers le monde. Et alors, cette news fait un petit peu le tour du net en ce moment. On la retrouve même sur CNN, sur USA Today, enfin sur leur site internet en tout cas.
Je vois pas trop pourquoi. Enfin, si, je vois un peu pourquoi, parce que c'est vrai que c'est assez énorme sur un personnage comme Batman, mais bon.
Ah bah ça change profondément le mythe quand même.
D'ici le prochain Redcon. Parce que alors voilà, on sait, moi ça me rappelle furieusement ce qui s'est passé avec un certain Peter Parker durant Civil War quand même.
Bah, moi ça me fait vraiment penser plus à Iron Man, tu vois.
Ouais, aussi Iron
Parce
Man.
Parce que Tony Stark disait que Iron Man était son garde du corps personnel, que c'était lui qui le finançait,
tout
mais
qu'il
fait, n'était
tout
pas
à fait.
Iron
d'ailleurs,
Man.
Je crois que Bob Arras fait le parallèle entre Bruce Wayne et Tony Stark. Et d'ailleurs, c'est un parallèle judicieux, puisque tous les deux sont très riches, tous les deux ont
des
beaucoup
playboys,
d'argent.
Voilà.
Et ont éventuellement le moyen, rappelle-toi Bruce Wayne avec son satellite OMAC, ont les moyens un jour, si vraiment ça les embête, de laver le cerveau de la population, à coup de Zatanna par exemple. J'espère que ce sera pas le cas, parce que franchement ce serait miteux, mais il y a quand même des chances qu'un jour on revienne en arrière.
Bah, j'ai réfléchi un petit peu au truc, je pense que la meilleure idée pour arrêter ça par la suite, ce serait que Batman fasse quelque chose de pas bien et que Bruce Wayne dise... Voilà, j'ai plus envie de financer Batman, vu ce qui s'est passé.
Non, ce serait encore mieux qu'ils disent je finance les recherches pour appréhender Batman. Ce serait assez énorme quand même.
Ouais, peut-être. Bah, en tout cas, moi comme je dis, ça change vraiment le personnage en lui-même. Je pense que c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent chez Batman.
Ou peut-être dans un Elseworld, au fait, qu'on n'aurait pas lu. Peut-être dans Legend of the Dark Knight, un épisode.
Legends of the Dark Knight est quand même un petit peu partie de la continuité, même si on marche.
Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, pas dans la continuité. Ah bah, pas si, peut-être dans les... ça a dû arriver dans les années 50, 60, il y avait énormément
c'est
d'épisodes où tu voyais Bruce Wayne qui disait « je vais financer... » Mais je pense que si, en plus. Ça me rappelle une couverture, je me demande s'il n'y en a pas une, où tu voyais Bruce Wayne qui disait « Ouais, je vais financer Batman dans sa lutte contre le crime. » Et bien sûr, ça avait une vieille explication miteuse à la fin, du style « Mais non, regardez, je suis pas Batman, il est là-bas. » Enfin bon, une vieille connerie, ou bien alors c'était encore un délire d'Alfred, ou un truc dans le genre, quoi.
C'est justement le meilleur moyen pour lui de garder son identité secrète, son identité de Batman. En disant qu'il le finance, les gens vont se dire « Voilà, il le finance, c'est pas Batman. » C'est le meilleur moyen pour lui d'avoir une couverture.
Ouais. Mais moi, malgré tout, enfin le plus intéressant ce que je trouve là-dedans, c'est ça me fait furieusement penser à ce qu'a fait Marvel avec Captain America finalement. Donc je me demande si Morrison n'a pas été, inconsciemment influencé par ce qu'a fait Marvel, puisque regarde, Captain America comme Batman donc se retrouve mort entre guillemets. Au fait, ils voyagent tous les deux dans le temps. Il y a une espèce d'histoire de balle magique dans les deux cas. Il y a surtout Bucky et dans l'autre cas un nouveau Robin quoi. Enfin, je veux dire, son ancien sidekick qui reprend le rôle de Batman alors que Bucky reprend le rôle de Captain America. Et puis là, après le retour de Captain America, au fait, il reprend pas le costume de Captain America, il est vraiment Steve Rogers.
Voilà.
Et il finance les Avengers, en quelque sorte.
Ah bah, il est nouveau chef du SHIELD, quoi.
Il est nouveau chef du SHIELD, il supervise un petit peu ce qui se passe chez les Avengers. et il est un petit peu le mentor donc du nouveau Captain America qui est son sidekick. Et là, on a l'impression que ce qui va se passer, c'est qu'effectivement Bruce Wayne, il va chapeauter un petit peu le Batman qui est Dick Grayson, quoi, finalement.
Bah, en fait, ce que je trouve énorme dans tout ça, c'est que au sortir de tout ça, on va avoir 5 séries régulières sur Batman, ce que je trouve déjà énorme.
Voilà, ce sera pas les mêmes Batman parce qu'il y aura.
Non, on aura quand même 5 séries régulières Batman.
Le vrai Batman maintenant, c'est Dick Grayson. Enfin, c'est celui qui est dans le titre Batman. Oui,
et justement, moi, je me disais, est-ce qu'il va rester Dick Grayson après? Enfin, est-ce qu'il va rester Batman et pas redevenir Dick Grayson ou Nightwing ou je ne sais quelle autre entité après le retour de Bruce? Et en fait, non. Et c'est même pire que ça.
Ça, c'était annoncé, par contre, qu'il allait rester.
Oui, on le sait depuis quelques mois. On le sait depuis quelques mois de façon sûre. Moi, tant que je l'ai pas vu, tu vois, je préfère me méfier. Mais là où c'est énorme, c'est quand même que sur ces 5 séries, Dick Grayson sera le Batman en tant que héros dans 3 de ces séries régulières, donc dans Détective, dans Batman et dans Batman et Robin. Alors que dans les 2 nouvelles séries, Batman INC et Batman The Dark Knight, je crois que c'est comme ça que s'appelle la série de David Finch, ce sera Bruce Wayne le héros. Donc oui. Finalement, le Batman original est minoritaire en termes d'exposition.
Oui. Ce sera.
Je trouve que c'est assez énorme. Alors que tu vois, à l'inverse, Steve Rogers chez Marvel est quand même majoritaire au niveau exposition, puisqu'on le voit dans Secret Avengers, on le voit dans Avengers, on le voit un petit peu partout. Il a sa série Steve Rogers Super Soldier. Enfin, c'était une mini, mais.
Ouais, mais Steve, comme tu dis, c'est Steve Rogers, quoi, tu vois. Et là, peut-être que Bruce Wayne, on le verra un peu partout aussi.
Ouais, peut-être. Voilà. En tout cas, il sera pas le héros, quoi. Alors que dans Avengers, il est le héros, finalement. Enfin.
Ouais, faut voir.
On le voit vraiment de façon prononcée.
On va voir, mais je trouve qu'il y a vraiment énormément de similitudes entre les deux personnages et leur historique récent, quoi.
En tout cas, cela fait partie du plan à long terme de Morrison. Et j'avouerai que ça, je l'ai vraiment pas vu venir. Et franchement, chapeau à DC de nous avoir gardé le secret d'un truc aussi énorme que ça. Parce que ça n'a pas du tout été.
Oui, et en plus, je me dis, mais je suis con, parce que en réfléchissant par rapport justement à Captain America et au fait que Batman ressemble énormément à Captain America récemment, et avec l'indice finalement, Batman Incorporated, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire?
On savait très bien quel était le pitch.
On aurait pu quand même deviner qu'il allait avoir ce retournement de situation, et ben non, je l'ai pas vu venir non plus.
Ça fait un mois ou deux qu'on connaît le pitch de Batman INC, mais. Là, franchement, le fait que Bruce Wayne révèle publiquement qu'il finance Batman, ça avait été vraiment gardé secret. Et là, franchement,
contre,
chapeau d'essai. Vraiment,
par contre,
une super
moisi,
surprise.
Oui. Par contre, ce que je trouve moisi, c'est ce que je te disais avant l'enregistrement, c'est que quand même, à mon avis, des gens vont se dire, mais c'est lui Batman. Enfin, tu vois, ça me semble évident, quoi. Tu vois, que ça traverse l'esprit des gens.
Je sais pas.
Parce que à l'époque, quand Tony Stark disait qu'Iron Man était son garde du corps, c'était kitschissime quand même.
Oui, mais là justement, il y aura plusieurs Batman. Enfin, les gens se rendent compte qu'il y a plusieurs Batman. C'est un moyen déjà de détourner les soupçons. Mais avec Dick Grayson qui peut apparaître à côté de lui sous costume de Batman, c'est facile de se dédouaner.
Ouais, mais ce que je trouve un petit peu bizarre aussi, c'est la déclaration. En fait, quand il fait sa déclaration, il y a Dick Grayson, il y a Alfred, il y a Damian derrière lui. Tu vois, ça fait un petit peu genre.
C'est la famille Wayne, mais de toute façon, la famille Wayne étant très connue des paparazzi, puisque c'est une famille riche, et vu qu'il a adopté Dick Grayson officiellement, c'est comme son fils, donc c'est normal qu'il soit présent.
Tu prends une photo de Dick Grayson et de Damian, tu te dis, attends, est-ce que c'est pas Batman et Robin, quoi? Sérieusement, enfin. Enfin bon,
oui,
voilà.
Ça,
c'est les comics, c'est le folklore.
Attends, à ce moment-là, tu prends une photo de Superman et.
Exactement. Non, mais tout à fait. Bien sûr. Donc voilà, donc ça fait déjà longtemps qu'on est là-dessus. On va peut-être passer aux reviews.
Oui, on commence les reviews de cette semaine par la double review comme toujours. Nouvelle série chez DC, Superboy volume 4 numéro 1, scénarisé par Jeff Lemire et au dessin et à l'ancrage Pierre Gallo. Donc on avait eu une première un premier avant-goût en fait dans le Action Comics 892 avec un teaser des choses à venir en plein milieu d'une scène où on comprenait pas trop ce qui se passait. Et les détails étaient à voir plus tard dans Superboy. Ça y est, c'est enfin sorti. Et waouh, ça décoiffe.
Ouais, il se passe pas mal de choses dans ce premier épisode. Moi, déjà de prime abord, j'ai trouvé ça super frais. Très agréable à lire. Et ça m'a fait vraiment penser à Invincible, au fait. Il y a beaucoup d'humour et puis d'action, quoi. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Et donc, on a hâte de lire la suite, ce qui est assez rare quand même.
Ouais. Bah, un peu comme Jonathan Hickman, quand il est arrivé sur les Fantastic Four, avait fait un petit peu un mélange de tout, et dans chaque épisode, on voyait autant des scènes là où Reed était scientifique, on voyait des grosses bastons gigantesques, et on voyait des moments de famille. Bah, là, on a la même chose avec Superboy. C'est-à-dire
Tout à
qu'on le voit
fait.
dans sa vie civile, on le voit agir en tant que Superboy, on le voit avec Ma, avoir un petit moment familial, etc. C'est vraiment l'ambiance qu'on attend de Superboy, quoi.
Bah non, t'as raison, je vais mettre une bonne note à ta fiche de lecture, Steve.
Déjà, on commence par une intro. Alors, pour les gens qui auraient lu les premiers travaux de Jeff Lemire, à mon avis, ça leur aura fait tilt. Bah, pour les autres, bah, absolument pas. Je pense impossible.
Tu penses à quoi, là?
La toute première scène où on voit un gamin avec un masque, une petite cape qui court dans les champs, etc., c'est tout à fait le gamin que l'on a dans Essex County numéro 1.
Ah, d'accord, ok.
Donc, un de ses premiers travaux publiés.
D'accord, non, parce que je pensais à Mister Nobody et je voyais pas le... Oui, peu
Et
importe.
c'est, enfin voilà, j'ai trouvé le petit clin d'œil que Pierre Galour, parce que c'est lui qui dessine, alors que c'était Jeff Lemire dans Essex County. Enfin, je sais pas, ça m'a tout de suite sauté aux yeux, voir ce gamin courir dans les champs. Voilà, ça m'a fait tilt et je me suis dit, bon, c'est quand même assez sympa de faire un rappel sur les précédents travaux. Et en même temps, ce qu'il explique, enfin,
Attends,
la narration.
j'ai une blague. Si Pierre Gallo était sur Superman, au moins il irait plus vite.
Alors là, je ne vois pas.
Non, non, laisse tomber. Vas-y, continue,
Non,
enchaîne,
non, non, mais
enchaîne.
vas-y,
Tu
explique,
comprendras
explique.
au montage. Bah, aller au galop.
Ah, oui, d'accord. J'ai peut-être pas.
Oh, les mythoses,
Oh là là, c'est très mauvais.
oui, il fallait que ça sorte, quand même. Il fallait que ça sorte. Ça aurait été trop
Ouais.
dommage que
Ah
je
bah,
mette un galop.
il faut, parce que si tu gardes des choses comme ça en toi, ça va.
Ça va, oui, ça va faire mal au LCF, par exemple. Tu
Non,
risquerais
puis
de
même
faire un
pour.
nervous breakdown, ce serait bad.
Ouais, puis même pour ta santé, enfin, c'est pas bon, quoi.
Exactement.
C'est comme un P, faut pas le garder en soi, tu vois, faut que ça sorte. Bah voilà, les vannes pourries, faut que ça sorte.
Exactement. Donc, vas-y, reprends ce que tu disais.
Je disais, en fait, la narration qui est faite au moment où on voit ce gamin courir, etc., c'est aussi un petit peu une sorte d'évolution. On voit l'évolution de Jeff Lemire à travers cette narration. Donc j'ai trouvé vraiment cette première scène super magique. Et puis, bah, alors après, le reste, c'est toujours pareil, quoi. La scène où on voit discuter avec Ma, qui est toute à lire, en fait, dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a vachement de travail, en fait, dans la lecture, dans la façon de mettre en place les
C'est
cases.
poétique. Voilà,
Mais
c'est.
exactement, c'est tout à fait ce que nous fait Jeff Lemire habituellement.
Ouais. Non, c'est super agréable à lire. C'est bon, il y a de l'action, on s'ennuie
Mais oui, voilà,
absolument pas
et
une page.
c'est vrai qu'il faut quand même insister là-dessus, il y a aussi de l'action.
Beaucoup.
Oui, parce
Beaucoup.
que
Pour un premier épisode, il y a un méchant classique qui revient, on va pas dire qui, c'est pas la
Oh bah
peine.
si, on peut, hein. Ça
Ah,
donnera un
c'est
petit teaser aux gens.
le retour
De
du parasite.
Parasite, ouais, voilà. Qui
Parasite.
vient faire un petit détour par Smallville, vouloir tuer Superman, hein, comme toujours.
Exactement, tant qu'à faire.
Et donc il tombe sur Superboy.
Ouais, il y a des twists super sympas dans l'épisode, et il y a surtout aussi des scènes où on voit Superboy à l'université, et c'est très drôle. C'est ça surtout qui me faisait penser à Invincible.
Ouais,
Il y a une
bah bien
espèce
sûr.
de double texte, au fait. Tu vois, il y a une bulle de pensée où il pense un truc, et il dit complètement autre chose à la nana qu'il est en face de lui. Et d'ailleurs, la nana qu'il est en face de lui, c'est quand même, alors je sais plus comment elle
La
s'appelle.
nièce Laurie Luthor, la
Laurie
nièce.
Luthor, voilà,
Alors,
Laurie Luthor.
c'est des personnages que l'on connaît si on a lu le run de Geoff Johns sur Adventure Comics, où il y avait donc le truc principal sur Superboy et ensuite en backup la Légion. C'est vrai que si on n'a pas lu ça, c'est dispensable. Enfin, je veux dire, on peut s'en passer. On apprendra à connaître les personnages sans. Mais c'est vrai que si on les a lus, on comprend mieux certaines choses.
D'accord.
Donc, d'où le fait que, bah, par exemple, il essaye de l'éviter, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors oui, moi il y a un truc qui m'a un petit peu gêné, c'est bah, justement Connor Kent en civil. Les lunettes, je trouve que ça fonctionne pas. Je trouve
Oui, et
qu'il a une
alors, oui,
tête, il a
alors,
une tête bizarre.
niveau dessin, c'est pas mauvais, mais je trouve que notre ami, alors comment s'appelle-t-il déjà?
Connor. Ah, Pierre Gallo.
Oui. Je me disais, ah bon? D'accord. Oui, je pense qu'il a encore de. Il y a encore de la marge, quoi, tu vois, je pense qu'il va encore progresser, etc. Parce que là, c'est vrai que quelquefois, par exemple, notre ami Connor, justement, ressemble un peu à un asiatique.
Un petit peu, ouais. Ouais.
Donc voilà, c'est loin d'être désagréable,
Je
ces
trouve qu'en
dessins.
fait, les passages les plus ratés, en tout cas sur Connor, sont les passages à l'université. Franchement, les lunettes, je trouve que ça va pas du tout, quoi. Il y a quelque chose qui cloche. Le
En
fait
même
qu'il
temps,
les
là,
ait
on...
toujours bas sur le nez, le fait qu'elles soient teintées, je sais pas. Enfin, les lunettes sont quand même une partie importante. Regarde la mythologie Clark Kent Superman, c'est pareil pour Superboy. Donc si les lunettes sont ratées, il y a quand même quelque chose qui cloche, quoi.
Mais ce qu'il faudrait faire, c'est une histoire où ils vont aller chercher leur où ils vont acheter leurs lunettes, en fait. Donc où vont-ils se procurer leurs lunettes? Ça, ce serait intéressant, parce que l'opticien, il pourrait carrément voir qui c'est, quoi.
Ah, je sais pas, sur internet peut-être.
Ouais, sans doute, sans doute.
Donc voilà, donc franchement un super bon épisode. On a aussi la visite d'un guest, un personnage assez connu de l'univers DC. Bon, là, par contre, on va pas dire qui vient prévenir Superboy d'un
grand danger. Ah oui, très drôle cette scène. Ouais. Ça m'a fait penser à du Spider-Man.
Tu lui dis attention, il y a un grand danger, méfie-toi.
Oui.
Le truc classique, quoi.
Ouais, ça m'a fait penser, allez, on peut le dire quand même, ça m'a fait penser à Spider-Man et Doctor Strange, par exemple.
Par exemple, ouais.
Non, mais enfin.
Avec un bel indice d'ailleurs.
Oui, voilà. Franchement, très bon épisode et encore une série de plus, une bonne série de plus à lire tous les mois chez DC, j'ai envie de dire.
Bah, en tout cas, ça commence très très bien.
Bon, je pense que ça va continuer, hein, j'espère. Enfin,
j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais. Donc, vous l'aurez compris, hein, pour ma part, c'est un bail, et pour toi aussi, Benny, je pense.
Moi aussi, ouais, un bail. Ouais.
Donc, faites-vous plaisir.
Hein. Un truc à prendre sur l'étalage, qui en plus est un peu plus long, je crois, non ?
Oui, il doit faire une trentaine de pages, je crois.
Ouais, je sais pas.
J'ai pas fait gaffe. En même temps, on est tellement plongé dedans que voilà. Un dernier argument pour ceux qui hésiteraient encore, Crypto.
Crypto est là, bien sûr.
Eh oui.
C'est quand même le chien de. Enfin, c'est pas le chien de Connor à la base, mais il l'a adopté, quoi.
Oui, puisque Crypto vit maintenant chez Ma. Donc Connor vivant chez Ma, c'est son chien.
Oui, il a un petit peu une vie à la Peter Parker, bon, avec le chien en plus.
On passe maintenant au review solo, et donc cette semaine, c'est toi qui commences, Benny.
Oui, c'est moi qui commence avec le Captain America Man Out of Time, première partie sur 5. Le scénario est de Mark Waid et les dessins de George Molina, accompagné de Carl Kaisel à l'ancrage.
Carl Kaisel, tiens, ça fait bien un nom, c'est bien un nom que j'avais pas entendu depuis un bon moment. Ça.
Oui, c'est pour ça que je le précise, ça m'a fait plaisir de voir Carl Kaisel à l'ancrage. Voilà. Donc un encreur très connu.
C'est pas qu'il fait peut-être, plein de choses, hein, mais c'est juste que j'ai pas entendu son nom, en tout cas, depuis très longtemps.
Ouais. Donc, voilà, en fait, c'est une nouvelle mini-série Captain America. Donc, on en a conclu une il y a deux semaines. En voilà une nouvelle déjà qui arrive avec le film, c'est normal. Et on va en manger pas mal.
Ça
est tort, ouais, exactement. Et le pitch est tout bête, hein. Le pitch, c'est, grosso modo, on reprend l'histoire juste après la guerre. C'est le retour aux États-Unis de Bucky et Captain America. Mmh. Donc voilà, c'est le début de la gloire, etc. On parle de Captain America un peu partout, il fait la une de Life Magazine, etc. Donc on assiste à la disparition de Bucky. Donc là encore, on reste dans le classique, hein, le fameux coup de la bombe sur un comment ça s'appelle ?
Un petit avion,
ouais, un petit.
Je sais pas trop ce que c'est.
Non, un drone, non, je sais pas, on appelle pas ça.
Un drone.
Un drone. Oui. Un drone, voilà. Et puis, donc, Captain America qui est aussi touché par l'explosion. Et, ensuite, il est récupéré, en fait, c'est toute l'histoire, c'est les origines classiques, au fait, de Captain America revu par Mark Waid. À la seule différence que là, lorsqu'il se réveille chez les Avengers, au fait, l'histoire ne se situe pas dans les années 60, mais à notre ère, visiblement.
Une sorte de modernisation du concept, en fait.
Totalement, voilà. C'est vraiment la modernisation des origines de Captain America, une sorte de Secret Origins, par exemple, de Captain America, par Mark Waid.
Peut-être, pour rapprocher par rapport à quelque chose qu'il avait fait chez Superman.
Voilà, une sorte de Birthright, effectivement. Alors, pour le moment, on voit vraiment beaucoup de choses qu'on connaît. Quand on connaît le personnage, je veux dire, ça, on reste dans le classique. C'est bien écrit, hein, c'est Mark Waid. Donc il a quand même fait un run avec Ron Garney sur Captain America qui était vraiment bon.
Oui, il connaît bien le personnage. Il
connaît très bien le personnage. Donc c'est intéressant, c'est sympa. Mais pour quelqu'un qui, comme moi, a déjà lu pas mal de Captain America, ça n'apporte quasiment rien, en fait, cette histoire. Donc, pour moi, c'est un pass. Par contre, si vous ne connaissez pas le personnage de Captain America, là, c'est un bon check-it, quoi. Puisque vous avez le droit à ses origines revues et corrigées par Mark Waid. Donc,
bon, tout simplement actualisé, en fait, je pense. Pas forcément revu, mais à moins qu'il y ait des choses qui changent.
Actualisé, parce que finalement, je pense que rien ne va changer, à moins qu'il nous sorte un truc à la fin qui modifie quelque peu les origines à la fin de la mini-série.
J'avais lu une interview un petit peu, enfin une interview, une très courte interview de Mark Waid par rapport à cette Mini, où il disait que justement, il allait moderniser un petit peu, puisque bah, on pouvait pas décemment aujourd'hui dire que ça se passait dans les années 60, ce serait un peu illogique, mais qu'en fait, on va vraiment s'intéresser à Cap, comment il a ressenti les choses. Bon, ce sont des choses qui ont déjà été faites, hein, de toute façon.
Ça, c'est très bien fait. Mention spéciale à la scène du réveil, qui le réveil de Cap quand il se réveille chez les Avengers, qui jamais ne m'a semblé aussi réaliste de ce point de vue. Elle est très bien rendue et bah également il y a un petit twist à la fin, enfin un petit twist, hein, une petite surprise à la fin, un truc qu'on n'a pas vu quoi en fait à l'époque.
D'accord.
Donc oui, voilà.
Fondamentalement, ça change pas les origines.
Non, ça change pas les origines du tout. Mais c'est en plus quoi. Voilà, bah alors. Malheureusement, pour quelqu'un, voilà, qui comme moi connaît, c'est un passe. Pour les autres, qui veulent se mettre au personnage ou qui seraient intéressés par lire du Captain America et qui ne connaissent pas les origines, c'est le moment de les découvrir avec la plume de Mark Waid. Et, voilà, c'est d'autant plus sympa, quoi. Donc, à voir.
Peut-être que la suite sera plus intéressante puisque plus sur les réactions de Cap lui-même. Et,
ouais, voilà. À partir de là, il devrait se passer des choses. Là, c'est vraiment le numéro où on apprend quasiment rien. Quoi.
D'accord.
Donc, voilà. Donc, pass ou check it, c'est selon dans quelle situation vous êtes.
Très bien. Bon, bah, on continue. On retourne chez DC avec Batman, Catwoman, Follow the Money. Le tout est écrit, dessiné et ancré par Howard Chaykin. Donc là, tout de suite, je sens qu'il y en a qui vont faire « Ah, au secours !» puisque bah, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de détracteurs et qui a aussi beaucoup d'admirateurs. Hein. C'est vraiment soit on aime, soit on déteste. Avec lui, généralement, il n'y a pas trop de demi-mesures.
Ouais, moi, je t'avoue que je déteste pas tant que ça. Par exemple, il avait fait un run sur Wolverine, enfin, un arc sur Wolverine, il n'y a pas si longtemps, avec Mark Guggenheim au scénario. Bon, ça m'a pas laissé un souvenir désagréable.
Il avait fait une mini aussi sur Guy Gardner à l'époque. Enfin, il avait fait pas. De toute façon, Howard Chaykin a une très très longue carrière. Dernièrement, on l'avait vu sur du Captain America dans le numéro 600. Il faisait les parties sur le Cap des années 50.
Ouais.
Donc là, alors déjà Batman Catwoman, c'est Batman Bruce Wayne. Il n'y a pas réellement de date. Hein. C'est un petit peu intemporel comme histoire. Pas vraiment dans la continuité.
C'est un one shot, hein, c'est ça.
Hein. C'est un one shot, oui. C'est face à un ennemi, un vieil ennemi qui s'appelle The Cavalier. Qui
ouais. Sorte de mousquetaire, non?
Voilà, exactement. Un ennemi qui est pas trop connu.
Mais qui est ancien, qui est vraiment l'un des tout premiers à apparaître dans Detective Comics, qui soit un espèce de personnage récurrent, en fait.
C'est, puis bon, à juste titre, hein, qu'il ait été oublié, ben voilà, il a rien de particulièrement qui ressort, en tout cas. Oui, voilà.
Il est bien représentatif de l'époque des années 40, quoi.
Et donc, dans cette histoire, les finances de Bruce, enfin de Wayne Enterprises, sont un petit peu mises à mal par des affaires internes. En tout cas, c'est comme ça que ça commence.
D'accord. Il y a une enquête sur lui, quoi, un petit peu.
Il y a une enquête puisque toutes les pensions, les retraites, etc., toute la somme qui est allouée à ça disparaît.
D'accord.
Et donc,
c'est marrant parce que ça sort la semaine où il y a.
Et oui. Et moi aussi, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir un lien? Est-ce que... Oui. Et en fait, pas du tout. Hein. Déjà, préfère le dire clairement, pas du tout.
Mmh. On va pas revenir dessus, parce que...
Non, puisque on sait jamais.
Spoilerisant.
Donc, le truc, c'est que ce sont des employés de chez Wayne qui ont fait le coup. On le voit dès le départ, hein, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais, il n'y a pas que ça. Et en même temps, on a The Cavalier qui revient, Batman qui l'arrête, il y a une petite rencontre avec Selina qu'il connaît aussi, et tous les deux se mettent un petit peu en cheville pour essayer non seulement d'arrêter The Cavalier, mais en plus de résoudre un petit peu cette espèce d'enquête sur Wayne Enterprises, qui bien sûr pose un souci, vu que les enquêteurs vont fouiller les comptes, ils vont se rendre compte que y a une partie de l'argent de Wayne Tech qui s'en va... pour financer Batman.
D'accord.
Donc il faut essayer de cacher tout ça à tout prix.
Mais que vient faire vraiment Catwoman dedans? Est-ce qu'elle a vraiment un rôle prépondérant? Parce que sur la couverture...
Oui, parce qu'elle connaît en fait The Cavalier et elle connaissait son secret avant que Batman connaisse son identité secrète. Enfin voilà quoi. Donc elle connaît bien le personnage et le personnage aime bien la titiller elle aussi.
Mais, Mais est-ce que c'est une love story entre les deux personnages?
Ah, il y a toujours ce côté romantique entre les deux, bien sûr, qui est très sous-jacent dans les dialogues. C'est vraiment bien rendu, il y a une bonne atmosphère, franchement, c'est un bon petit one-shot. Ça n'apporte rien, bien évidemment, puisque c'est un petit peu en marge de la continuité. Mais franchement, moi j'ai lu ça avec plaisir.
D'accord.
Ça fait 50 pages à peu près, donc c'est assez un petit peu moins, enfin avec les pages doubles, ça fait ouais, une cinquantaine de pages, quoi.
Et pour un prix qui est de...
4,99, je crois, de mémoire.
Qui reste raisonnable pour une cinquantaine de pages quand même. Mais bah voilà,
Après, donc,
alors.
faut aimer Howard Chaykin. Il y a pas mal de dialogues, c'est du dialogue et des bulles de narration. Enfin, voilà, il y a de la lecture. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Je dirais que c'est un check-it. C'est pas un bail parce que c'est pas incontournable, mais c'est un bon petit check-it. Si vous avez envie de lire une bonne petite histoire de Batman et de Catwoman, bah, allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Parce que bon, il y a vraiment toute cette ambiance romantique entre les deux, et puis les méthodes de Catwoman déteignent sur Batman, de même que les méthodes de Batman déteignent sur Catwoman, et vice versa, quoi.
D'accord. Bon, bah écoute, en tout cas, à réserver surtout pour les fans de Check-in, je pense.
Oui, et puis bah pour les fans de Catwoman qui quand même partagent vraiment la vedette avec Batman, hein. Ce n'est pas que Batman accompagné de Catwoman, c'est vraiment le couple qui forme les héros de l'épisode.
Et ça a l'air assez comique, la couverture. C'est comique,
Oui,
vraiment?
bah enfin c'est comique, on rit pas à gorge déployée non plus, mais ça reste avec un ton relativement drôle en tout cas. Voilà, donc un check-it pour moi.
Ça marche. Bah, du coup, je repars encore sur du Batman,
Oh,
plus ou moins, peut-on dire, puisque c'est Red Hood, The Lost Days, part 6, enfin, sixième partie. Donc c'est la dernière partie de cette mini-série de Judd Winnick et Jeremy Hone au dessin. Donc bah là, on arrive à un moment, enfin, à ce qu'on attend depuis le début de la série.
C'est la fin.
Oui, c'est la fin, mais c'est la fin en ce sens que Jason Todd essaye de zigouiller le Joker. Bon, alors, malheureusement, on sait déjà que de toute façon, il n'y parviendra pas, puisque cette mini-série nous narre ce qui s'est passé avant son retour dans la série Batman, il y a quelques années.
En tant que Red Hood.
En tant que Red Hood.
Bah,
Donc on
juste
sait...
après, je crois que c'est juste avant ou juste après One Year Later. Juste avant, je crois. C'était aux alentours de Batman
Ah oui,
650.
c'était avant, c'était
C'était avant,
juste
ouais.
après, juste après Hush, quoi. Puisqu'il arrive dans Hush, au fait. Et c'est censé être Hush au début, enfin, c'est censé être l'homme d'argile, et au fait, c'est vraiment Jason Todd.
Oui,
Il y a eu
c'était Batman 650.
un petit retcon. Oui. Et, donc, du coup, on sait que de toute façon, il n'arrivera pas à exécuter le Joker. Donc, l'intrigue de ce numéro, l'intrigue essentielle est un peu éventée, de toute façon. Alors, par contre, il explique ses raisons, et ce qui est bien fait, c'est surtout la deuxième partie du numéro, où on assiste un petit peu à toute la mise en place de ce qu'on a vu à l'époque dans Batman. C'est-à-dire, on voit la rencontre entre Jason Todd et Hush, par exemple. On voit un petit peu... en fait, il explique toutes les raisons qui font que, au fait, lui, il veut mettre un terme au conflit, en confrontant à la fois Batman et le Joker, et c'est d'ailleurs ce qu'on verra à l'époque dans les titres Batman. La scène la plus intéressante, à mon sens, c'est quand même celle où clairement, on voit ce que je disais il y a des mois de ça, on voit quand même Talia et Jason Todd avoir plus qu'une aventure, on va dire.
Oui, une bonne relation sexuelle à l'ancienne, quoi.
Voilà. Et
Pourquoi à l'ancienne, j'en sais rien, mais...
du coup, s'il y a eu coucherie là, il y a peut-être eu coucherie bien avant, puisque ça fait des années dans cette mini où on le voit qu'ils sont en relation. Donc voilà, peut-être qu'il y avait un bébé dans le placard, ou un squelette dans le placard, comme on veut, et qu'un jour on nous dira que c'était au fait Damian, le fils de Talia et Jason Todd.
Bah, si Judd Winnick se met à chapeauter les destinées de Batman à la place de Grant Morrison, peut-être.
Ouais, et puis Grant Morrison, mine de rien, avant n'utilisait pas du tout le personnage de Jason Todd, et on va le voir le mois prochain en français. Jason Todd sera dans Batman bientôt.
D'accord.
Voilà. Enfin, c'est pas un spoiler pour ceux qui lisent la VO, c'est un petit spoiler pour ceux qui lisent la VF par contre. Mais voilà. On le devine au titre du truc, puisque c'est Revenge of the Red Hood, je pense, ou un truc dans le genre.
D'accord.
Voilà.
Et
Donc,
donc?
pour moi, voilà, c'est vraiment une fin de série, un petit peu en demi-teinte, il se passe pas grand-chose de nouveau. Donc, pour moi, c'est un pass, ou alors, un check-it pour ceux qui ont pris tous les numéros jeux précédents, j'allais dire, hein. Ce serait con de pas avoir le dernier, quoi, mais
Mais au final, est-ce que ça fera un bon petit TPB ou est-ce qu'on peut même s'en passer carrément de ce TPB?
Moi, je pense qu'on peut s'en passer, honnêtement. On peut s'en passer. C'est pas mauvais du tout, mais voilà, faut vraiment aimer le personnage de Jason Todd, puisque bah c'est tout. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est les années qu'on n'a pas vu. Ça nous narre à peu près tout depuis sa disparition jusqu'à son retour. Bon, on peut s'en passer. Hein. On peut vraiment s'en passer. Encore une fois, c'est pas un mauvais travail de Jude Winnick. Il tient bien le personnage. J'aime bien ce qu'il en fait, mais en général, mais là, voilà, l'utilité n'est pas primordiale, quoi.
D'accord. Dernière review de cette semaine, et on retourne chez Marvel, Hawkeye et Mockingbird numéro 6. Scénario de Jim McCann, dessin de David Lopez et ancrage d'Alvaro Lopez. Et c'est le dernier numéro de la série. La série apparemment ne rencontre pas son public, et donc du coup elle s'arrête. Et c'est vraiment dommage parce que c'était vraiment pas mal.
Ah oui, donc on avait fait la review dans un Comic City de la mini-série. La mini-série initiale. Qui a lancé cette ongoing.
C'était New Avengers de Réunion.
Voilà. Et finalement, là, c'est fini.
Bah, peut-être est-elle arrivée trop tard, puisqu'il a fallu attendre presque un an entre New Avengers de Réunion et Hawkeye Mockingbird. Et je pense que peut-être que le buzz était retombé, puisque la série avait été vraiment bien accueillie à l'époque, enfin en tout cas la mini. Un an après, elle est peut-être retombée. Très bon succès critique, pas forcément succès public. C'est dommage.
Ouais.
En tout cas, les choses se terminent pas forcément très très bien, puisque alors pour ceux qui ont suivi la série, Hawkeye et Mockingbird se sont séparés aux événements du premier arc, et Hawkeye est en proie au doute puisqu'il a failli tuer Crossfire, et donc.
Mais on se demande vraiment pourquoi elle est revenue alors finalement.
Ah bah toujours, elle est toujours fait toujours partie des New Avengers.
Mais est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose finalement?
Mais oui, non. Enfin, franchement, il faut lire le premier arc qui est vraiment pas mal. Les personnages sont vraiment bien campés. Jim McCann les a vraiment très très bien.
D'accord.
Ça parle énormément, par contre. D'où le fait que les personnages sont bien campés d'ailleurs, puisque il explore énormément les différentes facettes des personnages, notamment avec les dialogues. Et donc, Mockingbird est donc en Savage Land avec Dominic Fortune.
Ah oui, le chasseur de nazis.
Ils sont en train de ils ont entendu un appel du Shield, en tout cas d'une des bases de Nick Fury, et ils se rendent sur place. Et Nick Fury les accueille avec des Skrulls, leur expliquant que les Skrulls avaient commencé leur invasion ici pour détourner un petit peu l'attention ailleurs, que les Avengers soient dans le coin, et que du coup, il y a des cadavres partout et qu'il faut les brûler, blablabla. Enfin, voilà, c'est un moyen de détourner leur attention. Mais finalement, est-ce que les choses sont telles qu'elles semblent être? La réponse dans le comic, hein.
Donc ça a toujours des liens avec Secret Invasion en plus.
Oui et non, c'est vite fait, mais au moins on fait rappel au passé, quoi. Secret Invasion n'a pas disparu, voilà. Avec pour seul reste Norman Osborn et son règne.
Ok.
Donc c'est toujours sympathique. Et de son côté, Hawkeye est vraiment pro au doute, donc comme je disais après le fait qu'il ait failli tuer Crossfire. Et c'est Steve Rogers qui va lui remonter le moral, avec une très très bonne scène hein, entre les deux personnages, très très bon dialogue. Franchement, super sympa. Et Steve Rogers apprend à Hawkeye que quelque chose est en place et qu'il va falloir, malgré qu'il ait quitté l'équipe de Mockingbird, la WCA, qu'il va falloir qu'il y retourne s'il veut empêcher Mockingbird de mourir.
D'accord.
Et donc okay. On n'en sait pas plus. C'est-à-dire qu'il y retourne et voilà, ça s'arrête comme ça en lui disant qu'elle va crever.
Mais il y aura une suite, non?
Mais il va y avoir une suite, voilà. Parce que à la base, on nous avait dit qu'il y aurait un crossover qui s'appelle Widowmaker entre la série Hawkeye Mockingbird et la série Black Widow. Or, la série Hawkeye Mockingbird s'arrête. La série Black Widow apparemment s'arrête, puisque j'ai pas vu d'autres sollicitations au-delà du numéro 8 qui sort le mois prochain. Qui sort ce mois-ci, pardon.
Ouais.
Qui sort à la fin du mois. Et à partir du mois de décembre, on aura ce crossover Widowmaker finalement dans une mini-série qui s'appellera Widowmaker, tout simplement. En 4 parties et qui sortira 2 fois par mois.
Ok.
Voilà. Et c'est aussi là, quand même, qu'on fera connaissance avec le nouveau Ronin.
Ah oui, donc c'est quand même prometteur, puisqu'on nous annonce un rôle prépondérant à Ronin, quoi. En fait.
Voilà, alors qui ce sera? Eh ben, il faudra lire Widowmaker pour le savoir. En tout cas, moi, je vais suivre Widowmaker, puisque j'ai bien aimé la série Hawkeye Mockingbird. J'ai pas jeté du tout un œil à la série Black Widow, je sais pas si elle est bien ou pas.
Oui.
Apparemment, elle s'arrête au 8, donc voilà, c'est dommage.
Ok, bah alors,
bref. Pour moi, c'est... disons que c'est un check-it pour deux raisons. Parce que c'est pas essentiel à ce qui se passe dans le Marvel Universe. On peut très bien s'en passer et comprendre... voilà. Widowmaker risque lui peut-être d'être un bail par la suite, mais en tout cas pour moi, Hawkeye Mockingbird, voilà. Si vous voulez suivre Widowmaker, je vous encourage à lire Hawkeye Mockingbird et peut-être Black Widow, hein, comme je l'ai pas lu, je sais pas. Mais c'est vrai que vu que c'est la fin de la série, il va peut-être y avoir un trade, alors peut-être attendre le trade, mais qui lui sortira d'ici quelques mois. Donc pour Widowmaker, ça risque d'être un peu tard.
Moi j'ai l'impression qu'ils vont revoir peut-être le rôle de Ronin à la baisse, puisque on nous annonçait ça comme quelque chose, comme un événement exceptionnel.
Ben oui, puisque à la base, d'après ce que je me rappelle, ça devrait être un méchant cette fois-ci.
Oui, puis là finalement ça va être annoncé dans une mini-série qui sera peut-être pas super exposée, quoi. Enfin,
oui, mais en tout cas ce sera sa première apparition, donc les gens se jetteront peut-être dessus plus tard, si le personnage est bien exploité dans le reste du Marvel Universe.
Ça enfin, peut être un... Étonnamment, ça n'a pas grand rapport avec Shadowlands par exemple.
Non, mais en même temps, je vois pas pourquoi il y en aurait.
Bah oui, non, enfin au début on pensait Ronin.
Bah oui, peut-être oui, mais on pense.
C'est comme Black Widow, est-ce qu'on la voit dans Shadowlands, je sais plus.
Non, on la voit pas.
Et pourtant, c'est un personnage récurrent normalement dans Daredevil. C'est étonnant, c'est étonnant.
C'est vrai que moi à l'époque, je pensais que Daredevil ne mourrait peut-être pas à la fin de Shadowlands et deviendrait le nouveau Ronin. C'est ce qui me paraissait logique vu qu'il serait plus Daredevil.
Mais est-ce qu'il va mourir d'ailleurs à la fin de Shadowlands?
Et mourra-t-il? On le saura qu'à la fin du mois puisque cela sort en fin de mois. Voilà, il va falloir attendre tout le mois de novembre avant de savoir. C'est terrible.
Ouais. Et peut-être qu'on arrivera à faire cracher, enfin, à faire cracher le morceau en Didi Gueule, lui, soutirer des informations.
Peut-être, oui. On verra bien. En tout cas, donc, je dirais qu'un check-it, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est dommage que la série s'arrête aussi vite. Alors, ce sera pas la première de chez Marvel à s'arrêter au bout de 6 numéros, malheureusement. Voilà, c'est tout pour les reviews de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour les sorties de la semaine prochaine, hein, tout simplement. Parce que avec la machine à DD, on va pas vous faire les sorties dans deux semaines.
Oui,
on a un contrat moral.
On a eu un petit souci avec le pingouin mutant, comme je disais dans les commentaires.
Oui.
Vous avez emprunté la machine à DD, donc Wilfred, notre majordome.
On va savoir ce qu'il a modifié dans le passé.
Voilà, donc est-ce qu'il n'a pas bidouillé la machine à DD? Réponse la semaine prochaine.
On verra bien. Comme toujours, vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous laisser un message sur le répondeur au 09 70 440 497 ou par Skype en ajoutant comiccity dans les amis et en laissant un petit message. Et on se retrouve la semaine prochaine, mais avant de se quitter, le traditionnel mot de la fin de Benny.
Alors je reste dans les spéciales dédicaces. Et peut-être, quand vous serez au Lille Comics Festival, si vous y venez, vous entendrez quelqu'un dire « Et patati, et patata ». Eh bien voilà, ce sera « Et patati, et patata », le mot de la fin.
Surprise à savoir qui comme ça.
Devinez. C'est qui cela peut-il être? Vous le connaissez, hein, sans doute, si vous êtes un fidèle auditeur.
Oui. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.
À bientôt, et lisez beaucoup de comics, mais pas trop.
Pourquoi pas trop?
Pas parce que j'en sais rien.